Alors l'enjeu, c'est de mettre en évidence la continuité artistique du XVIIIe siècle au XXe siècle. Et c'est la raison pour laquelle vous avez effectivement ces cinq chapitres que l'on peut énumérer, donc présentation des grands courants artistiques du XIXe siècle, les événements qui ont changé l'art au XIXe siècle, quelques grands thèmes de l'art du XIXe siècle, retour sur les œuvres majeures et enfin retour sur les artistes qui ont révolutionné l'histoire de l'art. Voilà, alors voyons plus précisément ce que ça va donner. On démarre par le premier chapitre, présentation des grands courants artistiques du XIXe siècle, avec cinq cours. Le premier est consacré au néoclassicisme et romantisme, le deuxième le pré-raphaélisme et les arts and crafts, le troisième réalisme et impressionnisme, le quatrième symbolisme, navi et art nouveau, et enfin on conclut ce premier chapitre par le post-impressionnisme. On aurait pu le mettre au pluriel, mais enfin au singulier c'est très bien. Et on démarre ainsi par une présentation générale des grands courants artistiques, en ayant justement ce souci de les articuler avec ceux du siècle précédent, pour mieux mettre en évidence la continuité artistique. Pour le dire autrement, néoclassicisme et romantisme, ce sont les deux principales tendances de l'art du XIXe siècle. Mais vous le savez, pour ceux qui ont suivi le programme de l'an dernier sur le XVIIIe, ces deux tendances sont nées au XVIIIe siècle et deviendront les deux principales tendances de l'art du XIXe siècle. Et autre remarque, sans le post-impressionnisme, on ne comprend pas l'art contemporain, on ne comprend pas l'art du XXe siècle. Je pense qu'on peut dire qu'on ne comprend pas l'art d'aujourd'hui sans le post-impressionnisme. Alors en effet, donc c'est un peu l'enjeu de ce programme, articuler ce siècle, le XIXe siècle, avec ce qui a précédé et ce qui suivra. Alors voyons donc pour le premier cours, sous sa forme la plus simple, le style néoclassique vise à faire revivre l'esprit des grandes civilisations grecques et romaines, notamment de l'Antiquité, les civilisations de l'Antiquité pour faire simple, et vise à réagir contre l'hédonisme et la frivolité du rococo. Donc souvenez-vous, c'est ce qu'on avait expliqué l'an dernier. Diderot, Voltaire ont raillé le relâchement moral du rococo. En conséquence, ils ont raillé le régime politique qu'il avait engendré. Et bien au contraire, ils exigeaient un art rationnel, moralisateur, fait de sentiments nobles. Jacques-Louis David, dont vous avez ici une référence, en fait le style grandiose et héroïque de la Révolution, autrement dit, quelque chose de très éloigné du néoclassicisme du siècle précédent, du XVIIIe siècle, le néoclassicisme de Greuze, par exemple, qui était loué par Diderot. Les principales sources d'inspiration des artistes néoclassiques étaient littéraires et historiques. Par exemple, les tableaux de David se concentrent sur les figures héroïques de la Grèce et de la République romaine. Et ses œuvres les plus influentes exaltent le courage, le sacrifice d'hommes, tels que Socrate, Brutus, les Horaces. Enfin, on verra ça dans le détail. Le romantisme. Le romantisme met l'accent sur l'imagination individuelle et sur une créativité libre de toute contrainte. Donc les deux courants sont très éloignés l'un de l'autre, pourtant parfaitement contemporains. Le romantisme s'étend dans toute l'Europe, mais suscite l'adhésion la plus passionnée en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Les principes du romantisme ont en partie été forgés par les philosophes allemands Emmanuel Kant, Friedrich Hegel et George Wilhelm Friedrich Hegel. Et ces derniers privilégiaient un monde intérieur qui était celui de l'artiste. C'est sans doute ici une base extrêmement importante, un principe même du romantisme. Alors de plus, la révolution industrielle européenne a été un des facteurs de l'émergence du romantisme. Donc vous avez plusieurs pistes pour comprendre cette émergence. En effet, la révolution industrielle a conduit à une période de bouleversements sociaux et de sentiments d'impuissance face aux forces anormales de la mécanisation, d'où une réaction, et cette réaction, c'est le romantisme. Alors on peut le dire autrement, cette inquiétude, hein, ce sentiment d'impuissance face aux forces de la mécanisation, cette inquiétude est un élément fondamental du romantisme qui va réaffirmer la relation particulière entretenue par l'humanité avec une nature intacte et non civilisée telle que l'avait théorisé Jacques Rousseau. La romantique mettra l'accent sur les émotions exacerbées, les troubles de la psychologie humaine, la force terrifiante de la nature qui est bien plus grandiose et plus puissante que l'humanité. Enfin, on le voit, tout sépare le néoclassicisme, surtout celui de David que je viens de présenter à l'instant, du romantisme, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, le romantisme anglais, le romantisme allemand, le romantisme français, entre autres. Ajoutons que Jean-Auguste Dominique Ingres, pilier de l'art établi, c'est-à-dire de l'art académique, sera la voix de l'autorité contre le mouvement romantique tout le XIXe siècle. Alors à cela se rattache le pré-raphaélisme. Je vous rappelle le contexte de la naissance de ce groupe en 1848, donc c'est une date qui est charnière au XIXe siècle. Sept étudiants de la Royal Academy de Londres ont formé une société dénommée Confrérie Pré-Raphaélite. Et ces étudiants voulaient échapper à la palette sombre, aux sujets imposés, aux conventions rigides qu'on les obligeait à adopter, c'est-à-dire toujours dans ce même cadre, le cadre de l'académisme. Admirateurs de l'art primitif italien, nostalgique du Moyen-Âge, ces étudiants, ces pré-raphaélites, jugeaient l'art médiéval plus libre et plus expérimental que celui de leur propre époque. Plus libre, ils se trompaient sans doute parce qu'il y avait des critères religieux à respecter, mais plus expérimental, ils ne se trompaient pas. Un peintre comme Giotto, par exemple, est quelqu'un qui a expérimenté donc un style, des techniques, etc. Quoi qu'il en soit, ces pré-raphaélites souhaitaient revenir à une époque qui était celle antérieure à Raphaël, mais Raphaël, bien sûr, était une référence à leurs yeux, ce sont les pré-raphaélites. Alors cette confrérie n'a duré que 5 ans, c'est très court, 5 ans. Hein. Après tout, c'est la durée moyenne des mouvements comme l'impressionnisme. L'impressionnisme a duré moins de 10 ans, la confrérie pré-raphaélite, 5 ans seulement. Mais voilà, l'influence aussi bien de l'impressionnisme que des pré-raphaélites, l'influence est considérable. Donc ça donnera naissance à l'un des mouvements artistiques britanniques les plus influents, c'est-à-dire qu'une seconde génération va émerger sur la base de ce que proposaient ces étudiants pré-raphaélites, une seconde génération d'artistes se rattachant à ce courant. Les plus appréciés sont William Morris, par exemple. William Morris est le fondateur du mouvement Arts and Crafts, et effectivement en Angleterre, mais pas seulement en Angleterre, parce que l'influence du design des Arts and Crafts va se répandre partout en Europe. Donc oui, William Morris, Edward Burne-Jones sont ces artistes d'une seconde génération qui poussent finalement plus loin ce que les pré-raphaélites à l'origine avaient commencé. Alors continuons hein, ce premier chapitre, avec le réalisme. Alors le réalisme marque une rupture formelle et stylistique par rapport aux scènes théâtrales idéalisées de l'art académique du début du XIXe siècle. Le réalisme s'inscrit dans un vaste mouvement artistique né en France, juste après la Révolution de 1848. hein, si bien que, après avoir cité quelques philosophes précédemment, on pourra maintenant préciser que le socialisme théorisé par les philosophes allemands Karl Marx et justement Friedrich Engels, auquel il conviendrait peut-être d'ajouter Proudhon. Mais Proudhon, c'est un peu différent quand même. Quoi qu'il en soit, ce socialisme se fondait sur un idéal de justice sociale et de distribution équitable des richesses. C'est cette idéologie-là qui devait être la raison d'être du réalisme en art, du réalisme en peinture. Donc c'est intéressant parce que on voit que néoclassicisme, romantisme et réalisme se fondent effectivement sur des idéologies, se fondent sur les travaux ou la pensée de philosophes que j'ai cités justement. Prenons Gustave Courbet. On considère Gustave Courbet à juste titre comme le chef de file du mouvement réaliste. Et remarquez une chose, qu'il a fait le portrait de Proudhon. Donc le lien est toujours très intéressant entre ces artistes-là, surtout les artistes réalistes, les penseurs de l'époque, qu'ils soient socialistes ou anarchistes, et puis la politique, finalement, hein, ou les événements qui sont les événements sociaux et donc révolutionnaires, tels la révolution de 1848. Les peintres réalistes se rebellaient. Ils se rebellaient contre les institutions artistiques tout en évitant le romantisme. Donc on ne peut pas effectivement rattacher réalisme et romantisme, même si, par moments, dans l'œuvre de quelques-uns, on pense surtout à Géricault ou alors à Daumier, le lien pourrait se faire entre romantisme et réalisme, mais je pense qu'il faut être prudent. Quoi qu'il en soit, il choisissait ces réalistes de représenter des gens et des événements ordinaires, dans un style naturaliste, quasi photographique. Et la référence à la photographie est donc tout à fait bienvenue en ce siècle, qui est le siècle de l'invention de la photographie, on y reviendra. Ajoutons qu'en 1870, collectif d'artistes formait l'Association des expositions itinérantes de Russie, qui organisait des expositions visant à faciliter l'accès du peuple à l'art, l'accès donc du peuple à l'art. Les membres du groupe prenaient le surnom d'ambulants, les peintres ambulants, et parmi ces peintres ambulants, on peut citer Nikolaï Kassatskine, qui, quant à lui, s'est rendu célèbre pour ses tableaux de genre mettant en scène des travailleurs ou des mineurs du bassin de Donetsk en Ukraine. C'est ce que l'on voit ici, justement, c'est ce qui est apparu sur votre écran. L'examen des maux urbains et sociaux trouve aussi son expression dans les caricatures d'Honoré Daumier. Daumier, hein, est un artiste qui est à ce titre qualifié de réaliste et dont les lithographies étaient publiées dans la presse politique et satirique de l'époque. Marquez aussi que parallèlement, Daumier a peint. Il a peint quand même quelques 300 tableaux, hein, dont La Blanchisseuse, hein, que je montrerai bien sûr en cours. La Blanchisseuse, c'est un tableau qui illustre très bien la sympathie exprimée par les peintres réalistes pour ceux dont les vies étaient laborieuses. Et bien entendu, notre peintre Daumier n'est pas le seul à saisir comme ça sur le vif des gens pauvres, des gens qui sont des laborieux. Des laborieux, et pourquoi pas donc avancer le terme de prolétaire. Édouard Manet doit être cité dans le cadre du réalisme. Il est le père de l'impressionnisme, mais il a d'abord été avant tout un grand peintre réaliste. Et c'est intéressant de rappeler ça parce que ça permet de rattacher aussitôt l'impressionnisme du réalisme. L'impressionnisme découle du réalisme, hein, à tel point qu'on serait en droit de qualifier l'impressionnisme, le qualifier de hyper-réalisme. Hein. L'impressionnisme n'est qu'un hyper-réalisme, surtout à propos des œuvres de Claude Monet. Alors reste quelques autres courants qui sont très importants au XIXe siècle. Le symbolisme apparaît dans les années 1880 en réaction au matérialisme et au progrès technologique du XIXe siècle. Donc là, on aurait quelque chose qui est très différent du réalisme. Alors, symbolisme, c'est un terme qui a été inventé par le poète et critique français Jean Moréas, dans un article publié par le Figaro en 1886. Voilà pour bien situer chronologiquement le symbolisme. Les poètes symbolistes exprimaient de profonds sentiments personnels, ils habillaient les idées d'une forme sensuelle, hein, celui qui dit ça c'est Jean Moréas justement, celui qui a inventé le terme symbolisme, habiller les idées d'une forme sensuelle, disait-il. Bon. Et le mot symbolisme a servi à désigner un style pictural imaginatif et intuitif, refusant l'objectivité, le naturalisme, donc très différent du réalisme que je viens de présenter à l'instant. Cependant, davantage que par un style, le symbolisme se définit par une méthode et des techniques nouvelles, par exemple cloisonnisme et synthétisme, dans le cadre de l'école de Pont-Aven, c'est-à-dire Gauguin. Gauguin est un peintre symboliste. Et justement, l'un des plus importants groupes d'artistes à représenter le symbolisme, c'est bien l'école de Pont-Aven, avec pour principaux représentants Paul Gauguin, je l'ai dit, Émile Bernard, Paul Sérusier. Parallèlement, le symbolisme d'Odilon Redon est fait d'images oniriques et d'éléments imaginaires issus du subconscient. Ça va annoncer par bien des aspects le surréalisme. Le symbolisme d'Odilon Redon peut effectivement s'articuler avec le surréalisme qui verra le jour plus tard au XXe siècle. Les œuvres de Gauguin. Les œuvres de Gauguin inspirent de jeunes peintres regroupés sous le nom de Nabi, avec Paul Sérusier pour chef de file. Paul Sérusier, de l'école de Pont-Aven, devient le chef de file de ce groupe qu'on va appeler Nabi, donc les prophètes, mais enfin j'y reviendrai bien sûr en cours, en détail. Dans le prolongement des Nabis, l'Art nouveau. L'Art nouveau est quant à lui un style décoratif qui a eu beaucoup de succès en Europe et aux États-Unis, touchant tous les domaines artistiques, de la peinture à l'architecture, en passant par les arts graphiques et le design. Et sa principale caractéristique, vous le savez, est l'emploi de motifs aux lignes sinueuses, les formes naturelles stylisées telles les feuilles et les vrilles y prédominent. C'est un style qui recourt parfois des formes humaines, mais dans ce cas, elles sont elles aussi très stylisées. Et il y a des motifs abstraits dans l'Art nouveau. Parmi ces motifs abstraits, les striures, les arabesques. Hein, là-dessus, on pourra effectivement nuancer. Dans sa tendance écossaise ou dans sa tendance viennoise, l'Art nouveau est plus géométrique. Quoi qu'il en soit, l'Art nouveau doit quelque chose aux audacieuses simplifications des estampes japonaises, hein, qui ont tant marqué les impressionnistes au XIXe siècle, mais pas seulement. Enfin, le mouvement Art Nouveau, qui est un mouvement européen, subit très fortement l'influence du mouvement britannique des Arts and Crafts, que j'évoquais tout à l'heure dans la continuité des pré-raphaélites, c'est-à-dire William Morris, les papiers peints à motifs floraux conçus par William Morris, que je montrais justement à l'instant, ont beaucoup impressionné les artistes de la fin du siècle et début du XXe siècle. Alors insistons un petit peu, insistons sur ces différentes tendances, et on en arrive au post-impressionnisme. Alors d'abord on peut rappeler quelque chose de simple, c'est un terme, post-impressionnisme, qui va se référer à des artistes pionniers qui s'inscrivent dans le sillage de l'impressionnisme. Principalement quatre artistes, hein. Paul Cézanne, Georges Seurat, Vincent Van Gogh et Paul Gauguin. Voilà donc les quatre principaux post-impressionnistes. Paul Gauguin que vous retrouvez ici, Paul Gauguin pensait que l'art devait être une abstraction de la synthèse opérée entre la perception de la nature et l'expérience de l'artiste. C'est remarquable, c'est redoutable. Vous avez là une approche conceptuelle de l'art, autrement dit, une approche extrêmement contemporaine que nous propose Paul Gauguin à la fin du XIXe siècle. Comme quoi, on ne peut pas couper l'art du XXe siècle de ce qui l'a précédé. Il faut savoir articuler les mouvements artistiques du XIXe siècle et surtout ce post-impressionnisme avec le XXe siècle. Hein, c'est fondamental. Et donc Paul Gauguin joue ici un rôle, on le comprend, qui est essentiel. Donc, d'une façon générale, les post-impressionnistes prennent leur distance vis-à-vis du naturalisme des impressionnismes, car attention, c'est un peu trompeur, hein, post-impressionnisme. Hein, c'est une rupture, en fait. Hein, le post-impressionnisme rompt avec l'impressionnisme. Si bien que les post-impressionnistes recourent à des couleurs vives, à de riches empâtements, à une touche expressive insistant sur les formes géométriques, et c'est ce dernier aspect qui est au fondement de l'art de Cézanne. Hein, Cézanne qui analysait l'essence géométrique de la nature, c'est un traitement radical donc de la composition, réduire tout ce qu'il voit donc à partir de formes géométriques, et ça va influencer les cubistes. Mais attention, Cézanne est en fait à l'origine de plusieurs courants qui naîtront au XXe siècle, au début du XXe siècle, que ce soit le fauvisme ou le cubisme. Alors je citais Georges Seurat. Seurat est effectivement donc un des grands post-impressionnistes. Comme Cézanne, Seurat se concentre sur un aspect spécifique de l'impressionnisme. Mais voilà, il va le déplacer, cet aspect, sur un autre terrain. Alors ce terrain, c'est l'optique. Seurat s'intéresse avant tout à l'optique. À l'optique, ça veut dire à la science de l'optique. Hein. Seurat s'appuie sur des principes rationnels et scientifiques en appliquant sur la toile des points minuscules de tons complémentaires au lieu de les mélanger sur la palette, ce que faisaient bien sûr de leur côté les impressionnistes. Et comme cela, il remarque que les couleurs gagnent en vivacité et en intensité. Seurat désigne sa théorie de séparation des couleurs sous le nom de divisionnisme. Ça, c'est aussi très important de rappeler que c'est le français Seurat qui invente ce mot de divisionnisme pour qualifier la technique qu'il a inventée. Hein. Technique, méthode, vous voyez comme quoi, donc c'est ça qui compte désormais. Hein. Et plusieurs autres termes entrent dans l'usage, par exemple le critique français Félix Fénéon. Fénéon parlera de pointillisme, et il inventera finalement le terme de néo-impressionnisme pour baptiser le mouvement fondé par Seurat, qui sera aussi représenté par Signac, vous le savez. Donc divisionnisme, pointillisme, néo-impressionnisme, tout cela ce sont des inventions françaises. On les doit donc à Seurat, et c'est développé par des artistes comme Signac. Quoi qu'il en soit, le pointillisme permet aux néo-impressionnistes d'élaborer un traitement plus scientifique de la couleur et de la lumière. Autrement dit, c'est à l'opposé de l'impressionnisme. L'impressionnisme, c'est la spontanéité, c'est travailler dans l'instant. Donc le travail de Seurat est un travail extrêmement long et quasi scientifique. Alors voilà pour ce premier chapitre qui va donc passer en revue, et ça sera donc, je l'espère, une bonne base pour le programme de l'année, qui passera donc en revue les principaux courants artistiques du XIXe siècle. Deuxième chapitre, les événements qui ont changé l'art au XIXe siècle, quatre cours, la lithographie comme moyen d'expression privilégié de la caricature sociale et politique, la photographie et l'estampe japonaise, la chromolithographie, les affiches d'Henri de Toulouse-Lautrec et d'Alphonse Mouchat, et enfin, expositions universelles et gares, les constructions de métal et de verre. Alors, voyons cela dans le détail. La lithographie, c'est une technique d'impression à plat, c'est-à-dire qu'elle n'est ni en relief comme la xylographie, ni en creux comme la calcographie, qui sont des gravures. Il suffit donc de dessiner directement avec un crayon, un stylo ou un pinceau sur la surface plane de la pierre lithographique. Point n'est besoin d'être graveur. Hein. Donc que Albrecht Dürer, par exemple, était un graveur. Il savait tout graver, c'est-à-dire le bois comme les plaques de cuivre, par exemple. Bon, là, on n'a pas besoin d'être graveur pour faire des lithographies. De plus, les matériaux de la lithographie sont économiques. Une pierre. Bon, et surtout, le tirage est illimité, puisque justement la matrice est en pierre. Donc là, vous avez quelque chose de révolutionnaire. La lithographie au XIXe siècle, c'est proprement révolutionnaire. D'autant que, dès le milieu du XIXe siècle, va se développer l'usage du report lithographique. Comprenez bien, un dessin est d'abord exécuté sur une feuille de papier très rugueuse et peu absorbante. Ensuite, elle est appliquée sur la pierre par pression. Et on peut faire des tirages quasi à l'infini comme cela. Report donc lithographique. Ça, c'est la technique par excellence de la caricature sociale et politique. De façon générale, la lithographie, c'est la technique par excellence de la caricature sociale et politique. Alors, dans ce domaine, bien sûr, domine Granville et Daumier, seulement, vous le savez, la loi de censure de 1835 va contraindre ces deux artistes, Granville comme Daumier, à abandonner la satire politique. Et Daumier va, à partir de là, stigmatiser les fripons, les gens de justice, comme l'avocat qui vient d'apparaître sur l'écran. Il se gosse des nouveaux riches, des bourgeois, du monde du théâtre, mais il devra laisser la politique de côté. Alors, là-dessus, parmi les choses qui ont révolutionné l'art du XIXe siècle, il y a bien sûr la photographie. Alors, il faut bien comprendre que l'immédiateté de la photographie correspond à la volonté des peintres réalistes de capter et d'offrir aux spectateurs une vision fidèle de la nature, une image sans maquillage et sans idéalisation. Alors là, on comprend que la photographie a été accueillie avec un grand enthousiasme par nos artistes, par les peintres notamment, comme instrument scientifique et objet de connaissance, aussi bien par les réalistes que par les impressionnistes. Donc c'est accueilli avec grand enthousiasme, mais c'est une émulation finalement qui se produit. Peintres et photographes permettent effectivement de créer une sorte de d'émulation qui favorise la création artistique, pour tout dire. La photographie a mis en évidence l'arrêt du mouvement, la fixation subite dans le temps et dans l'espace, d'un objet, d'une scène, d'un moment fugace. Alors on comprend que l'impressionnisme, où tout est fugace finalement, l'impressionnisme découlera en partie des apports de la technique photographique. Claude Monet n'a-t-il pas peint dans l'atelier du célèbre photographe Nadar? Donc ça veut tout dire, hein. Et alors, deux phénomènes importants, finalement, auront lieu à l'exposition universelle de Paris de 1867, une exposition considérable. Ces deux événements importants, très importants, sont la consécration de la photographie, déjà affirmée au salon de 1859, et l'installation d'un pavillon japonais. Le Japon s'ouvre sur l'Occident. Fermé qu'il était, désormais il s'ouvre sur l'Occident. Donc on voit l'Occident, l'Europe essentiellement, mais pas seulement. Il y a aussi les jeunes États-Unis qui sont inondés comme cela d'estampes japonaises. Hein, l'impact ou les conséquences en Europe sont considérables, en France en particulier. Alors le cours suivant, c'est la chromolithographie. La chromolithographie permettra le développement d'un nouvel art de l'affiche. C'est la raison pour laquelle il me semble que ça fait partie, dans la continuité de la lithographie, de la photographie, de l'estampe japonaise, ça me semble être donc révolutionnaire, hein, du point de vue artistique. L'affichisme est révolutionné par la technique de la chromolithographie. Et ça, c'est surtout grâce à Jules Chéret. C'est Jules Chéret qui va populariser, à partir de 1866, la chromolithographie, bon, et donc du même coup, les affiches là que vous avez sur l'écran. Alors là-dessus, après Jules Chéret, c'est Lautrec, c'est Bonnard, c'est Denis qui vont pratiquer eux aussi la lithographie en couleur. L'autre grand représentant de la chromolithographie, c'est Alphonse Mouchat. Et là, vous avez des artistes qui sont considérables dans l'histoire de l'art. Hein. Donc on ne peut pas négliger la chromolithographie. Remarquez au passage que ces affiches seront aussi très redevables aux compositions de l'estampe japonaise. Hein. Lautrec, Bonnard, Denis et même Mouchat, mais surtout Lautrec, s'inspireront beaucoup de l'estampe japonaise pour créer leurs affiches, leur chromolithographie. Reste l'architecture de métal et de verre. Alors, oui, il y a eu une construction fabuleuse, quelque chose donc qui est de l'ordre du jamais vu, finalement, hein, par l'humanité. Hein, par l'humanité. C'est ce que vous avez sous les yeux, le Crystal Palace de Joseph Paxton. L'anglais Paxton avait été très novateur en édifiant pour l'exposition universelle de Londres de 1851 ce Crystal Palace tout à fait révolutionnaire puisqu'il était constitué d'éléments préfabriqués montés sur châssis métallique, donc verre et métal. Et ce qui a bouleversé l'architecture, c'est bien sûr cela, l'introduction de nouveaux matériaux, fonte, fer, acier. La fonte, au prix de revient moins élevé, a joué un rôle pionnier. Le fer, quant à lui, était réservé jusque vers 1880 aux équipements les plus importants, les gares, les halls d'exposition, les ponts. Que sais-je. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr que ces architectes qui vont utiliser, et qui sont pour beaucoup des techniciens, des polytechniciens comme Eiffel, qui vont utiliser ces nouveaux matériaux, vont se poser la question du style en architecture. Hein. Et ces matériaux seront l'occasion de révolutionner le style en architecture. Le style en architecture était essentiellement académique, reposait sur des bases et un vocabulaire qui est celui de l'architecture antique, finalement. Hein. Donc là, c'est l'occasion pour les architectes et les techniciens, les ingénieurs, de renouveler le style architectural. Donc voilà ces quelques cours qui permettent de prendre conscience de ce qui a été révolutionnaire en art au XIXe siècle. La liste n'est pas exhaustive, loin de là, mais enfin, c'est déjà une approche intéressante. Chapitre suivant, quelques grands thèmes de l'art du XIXe siècle. Donc c'est un chapitre thématique qui va proposer une approche thématique. Et aussitôt, on va observer que dans ce contexte culturel, mais aussi social, politique et économique que j'ai un tout petit peu abordé dans ce premier chapitre, de grands thèmes s'imposent. Alors ces thèmes sont l'Orient, l'historicisme, le paysage est renouvelé grâce à l'invention de la peinture de plein air, qui n'est pas pour autant révolutionnaire, bon, mais c'est profondément renouvelé quand même. Et puis il y a ces thèmes des morts violentes, des massacres, de la folie, des révolutions, dont s'emparent tour à tour, et pour des raisons d'ailleurs très différentes, les romantiques et les réalistes. Alors voyons cela. D'abord l'Orient, l'orientalisme. Hein, l'orientalisme, c'est l'une des tendances culturelles les plus importantes du XIXe siècle. Ce goût imprègne la musique aussi bien que la littérature. On parle d'une curiosité passionnée pour un Orient musulman, un Orient qui s'étend du couchant, comprenez bien le Maghreb, au Levant. Je veux dire par là que le Maghreb, l'Égypte, c'est l'Orient pour un Occident, c'est déjà l'Orient. Curiosité qui s'impose au lendemain de la campagne d'Égypte, c'est-à-dire 1798. et qui connaît des développements extrêmement importants dans l'art. Et cela jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des artistes orientalistes aujourd'hui. Au XIXe siècle, parmi les plus importants, Delacroix, qui est un romantique, hein, ce qui permet de rattacher aussi romantisme et orientalisme, mais pas seulement le romantisme. Hein. Quoi qu'il en soit, Delacroix, c'est un romantique qui participe à une mission diplomatique montée dans le but d'apaiser les inquiétudes du sultan du Maroc, et cela peu de temps après la prise d'Alger. Hein, le sultan du Maroc avait de quoi être inquiet. Donc les velléités françaises étaient particulièrement fortes à cette époque. Bon, et Delacroix va au Maroc, et puis il ira aussi à Alger, justement, il ira donc un peu partout, avec son carnet de croquis, bon, etc. Enfin, on verra ça dans le détail, bien sûr. Il en rapportera donc des images extrêmement fortes, des couleurs très fortes, des objets... orientalisant, pour tout dire, et ça fera des chefs-d'œuvre comme Les Femmes d'Alger, mais pas seulement. Eugène Fromentin, alors Eugène Fromentin, c'est très réaliste, Eugène Fromentin. Hein. Eugène Fromentin, lui, par ailleurs, il s'est confronté physiquement au désert algérien dans des expéditions toujours plus lointaines. Et donc on comprendra facilement que pour lui, l'Orient et cet aspect de l'Orient, c'est-à-dire finalement le pays de la soif, le désert, hein, c'était une réalité. Vous voyez comme quoi là ici, romantisme et réalisme peuvent se combiner, romantisme et réalisme peuvent se combiner ou peuvent adopter cette inspiration orientalisante. Et alors cet orientalisme, il vaut dans tous les domaines, que ce soit, je l'ai dit, la musique, la littérature, la poésie bien sûr, la peinture, la sculpture, l'architecture peut être orientalisante. Elle est aussi historiciste. C'est le grand... Autre grand thème au XIXe siècle, l'historicisme se traduit en architecture par la vogue de l'éclectisme. L'architecture XIXe est éclectique. Et donc, comprenez, c'est la vogue des styles néo. Néo quelque chose. Par exemple, le style néo-gothique, étroitement lié au romantisme, justement, mais qui est apparu en Angleterre, en Grande-Bretagne, au XVIIIe siècle, d'où la référence que vous avez ici, qui nous situe au XIXe siècle, mais c'est bien au XVIIIe siècle, effectivement, que le style néo-gothique est apparu, d'ailleurs on l'avait vu hein, cela l'an dernier. Donc le Royal Pavilion à Brighton, de John Nash, reçoit à l'époque l'épithète de gothico-hindou. Côté hindou, c'est le côté oriental. Donc c'est du néo-gothique ou gothico-hindou pour les observateurs anglais donc à l'époque de John Nash. Vers 1830, alors que les romantiques interrogent qui nous délivrera des Grecs et des Latins, hein, c'est la question des romantiques. Bon. Le style néo-gothique s'impose face au néoclassicisme. Entre 1815 et 1840, Louis Ier de Bavière se fait le promoteur d'une série de châteaux néo-ottoniens, mais que l'on peut aussi qualifier de néo-romantiques, mais que l'on peut aussi qualifier de néo-gothiques. Entre 1840 et 1865, la reconstruction dans le goût gothique du Parlement britannique, qui avait été détruit par un incendie, et vous savez que Turner a immortalisé cet incendie. Ça prouve l'intérêt des organes officiels pour le style néo-gothique, c'est-à-dire que maintenant c'est officialisé. C'est presque, on pourrait dire, institutionnalisé. Le style devient effectivement un style qui peut représenter la nation, et là c'est le cas pour la nation anglaise. D'autres courants historicistes se développent, néo-renaissance, néo-baroque, bon, c'est moins important que le néo-gothique, mais fin quand même. Hein. Et enfin, les peintres romantiques notamment illustrent les grands moments de l'histoire nationale. C'est la référence au tableau que vous avez à droite de l'écran. Passons au paysage. À l'instar de Constable, Jean-Baptiste Camille Corot est l'un des premiers peintres à travailler en plein air. Ce qui lui permet de faire une découverte essentielle pour son œuvre, il ne l'a pas caché, il découvre que la couleur n'existe pas par elle-même, le paysage varie en fonction de la lumière et de l'atmosphère qui l'enveloppe. Ce point est très important parce que Corot fait cette observation au début du XIXe siècle. L'impressionnisme est un courant plutôt de la fin du XIXe siècle, seconde moitié du XIXe siècle. Donc, 50 ans avant les impressionnistes, Corot faisait déjà cette observation qu'un paysage varie en fonction de la lumière et de l'atmosphère qui l'enveloppe. Et pour cause, il fait cette observation parce qu'il a travaillé en plein air au début du XXe siècle, du XIXe siècle. Comme Constable. Mais Constable, c'est encore plus impressionnant, puisque c'est déjà à la toute fin du XVIIIe siècle et début XIXe qu'il tente cette expérience de la peinture en plein air. Alors quand on dit ça, c'est peinture à l'huile, peinture à l'huile de plein air. Les peintres de Barbizon, Théodore Rousseau, Jean-François Millet, Charles-François Daubigny, Diaz de la Peña, Dupré, et d'autres encore, Troyon, ont fait la gloire de l'école de Barbizon. Bon, installés près de Fontainebleau, ces peintres de l'école de Barbizon s'inspiraient de leur environnement immédiat. Et d'ailleurs, remarquez que Pont à la lisière d'un bois de Théodore Rousseau, en haut à droite de l'écran, donne une très très bonne idée de cette inspiration immédiate de l'environnement, c'est-à-dire là, près de Fontainebleau, enfin à Barbizon. Ces peintres s'attachaient à la réalisation d'un naturalisme accru qu'ils obtenaient grâce à la simplicité de leurs sujets et à la méticulosité de leurs observations. Et c'est comme ça qu'ils ont opéré un glissement vers le réalisme en pleine période de triomphe du romantisme. Donc ils comptent énormément, ces peintres, même si aujourd'hui, leur peinture n'est plus à la mode du tout, les paysages de l'école de Barbizon ne sont plus à la mode, mais historiquement, ils jouent un rôle qui est quand même assez important, assez fondamental. Ils opèrent ce glissement vers un réalisme, parce qu'ils sont soucieux de naturalisme accru, d'observation directe de ce qu'ils voient à Barbizon, enfin dans la campagne de Barbizon. Alors pourquoi tout cela est important? Parce que vous le savez, en France, on a un très grand défaut, donc il n'y a finalement dans toute l'histoire de l'art française, de l'Antiquité ou de la Préhistoire jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mouvement, c'est l'impressionnisme. Et finalement, on se rend compte que l'impressionnisme n'est pas du tout un mouvement révolutionnaire. Ce qui s'est joué avant les impressionnistes est bien plus important que l'impressionnisme lui-même. Ce qui s'est joué après l'impressionnisme, c'est-à-dire le post-impressionnisme que j'ai présenté tout à l'heure, est bien plus considérable que l'impressionnisme lui-même. On pourrait situer l'impressionnisme à la conclusion, au terme d'une tradition picturale qui passe par des étapes qui sont extrêmement importante et que je viens d'évoquer un peu là à l'instant. Alors toujours dans cette approche thématique, il y a alors en effet des sujets qui sont particuliers. La fin du XVIIIe siècle et tout le XIXe siècle sont marqués par des violences de toutes sortes. Renversement de régime politique entraînant son lot de misère. Des guerres, des famines, des épidémies, basculement dans la folie. Tout ce que Jacques-Louis David avait pu expérimenter avec les sujets classiques, il l'applique en 1793 à la mise en scène d'un événement d'actualité, la mort du député Marat. À partir d'un meurtre perpétré dans des conditions peu glorieuse, à savoir une baignoire quand même. David réalise un tableau exceptionnel, aussi bien par sa qualité artistique que par son effet de propagande. Et cet aspect propagande est aussi très important, et David était très impliqué, comme d'ailleurs, pour des raisons totalement différentes, Courbet était très impliqué dans la propagande politique. Alors, bon, là, effectivement, on a une mort violente. Le romantisme de Delacroix, c'est un romantisme brutal, sans égard pour le spectateur. Hein. On le verra avec les massacres de Kyo, par exemple, hein, la mort de Sardanapale, que c'est. Bon. Dans Rue Transtonin, le 15 avril 1834, que vous avez sur l'écran, Daumier dénonce le massacre perpétré par une patrouille militaire en pleine nuit. Cette dernière a assailli par erreur le domicile d'une famille pacifique qu'elle avait identifiée comme l'instigatrice d'une émeute. La plupart de ses membres sont assassinés. Et cette scène, que l'on pourrait qualifier d'ailleurs de cinématographique, ne laisse aucune place à l'humour. Je veux dire par là que Daumier le caricaturiste se fait ici d'un réalisme finalement qui est glacial, un réalisme tout à fait glacial, très cru, mais voilà, qui est en phase avec l'actualité. Le thème très romantique de la folie côtoie de grandes envolées révolutionnaires. C'est ce que vous avez ici sur la projection, la monomane de l'envie de Géricault et l'envolée révolutionnaire, c'est-à-dire donc le tableau de Delacroix. Alors, à propos de la folie, hein, précisons que parmi les sujets épouvantables, puisque ce cours sera consacré, pour faire simple, à cela, Hugolin, c'est le thème du cannibalisme, thème déjà évoqué dans le radeau de la Méduse de Géricault. Ce cannibalisme ici prend une dimension encore plus tragique, puisque vous le savez sans doute, il s'agit des enfants d'Hugolin. Alors toutefois, malgré l'horreur des scènes évoquées à l'image du siècle, c'est faut pas se tromper. Pourquoi les artistes ne devraient-ils peindre que des fleurs ou des natures mortes ou de jolis paysages, c'est-à-dire passer complètement à côté de leur temps et de leur histoire, hein. Les artistes peignent effectivement ce qui correspond à leur temps et à leur environnement. Donc il y a des horreurs, parce que le XIXe siècle a été effectivement un siècle très heurté. Le XXe siècle a sans doute été pire. Bon, quoi qu'il en soit, malgré l'horreur des scènes évoquées, les artistes subliment leur temps. Ils savent aussi faire cela. C'est la Marseillaise, par exemple, hein, de François Rude, l'envolée révolutionnaire, à côté de thèmes qui sont proprement horribles, comme Hugolin et ses enfants. Autre chapitre, alors grand chapitre, là, cette fois-ci, consacré à 8 œuvres majeures du siècle. Le sacre de l'empereur Napoléon Ier de Louis David, le radeau de la Méduse, justement, de Géricault, un enterrement à Ornans et l'atelier de Courbet, l'Olympia et un bar aux Folies Bergères de Manet, les danseuses d'Edgar Degas, la danse de Jean-Baptiste Carpeau, que l'on vient de voir à l'instant, la porte de l'enfer d'Auguste Rodin, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte de Georges Seurat, et enfin l'entrée du Christ à Bruxelles de Jammes Ensor. Alors, deux mots là-dessus. Voilà donc un tableau qui peut être considéré comme un emblème du néoclassicisme, mais attention, avec David, il y a quantité d'autres tableaux, hein, qui sont emblématiques du néoclassicisme. Alors celui-ci, c'est un néoclassicisme orienté, dirigé, on pourrait dire presque de propagande finalement. Hein. Bon. Alors en effet, il y a de quoi. Napoléon, c'est imaginer dans la droite lignée des empereurs antiques et médiévaux. Et ici, David ne fait que répondre aux souhaits de l'empereur, finalement. hein, Napoléon veut paradoxalement aussi être le chef des plébéiens de France. Donc il est à la fois dans cette droite ligne des empereurs antiques et médiévaux, et il est le chef des plébéiens de France. Bon. En refusant de communier, il démontre son irrespect et sa tendance à déroger. Il a pourtant prêté le serment religieux traditionnel devant le pape. Il a reçu la triple onction des mains du pape. Mais il entre dans la cathédrale habillé du costume impérial, alors que le prélat aurait dû l'habiller au cours de la cérémonie. Surtout et par-dessus tout, vous le savez, il s'auto-couronne. En d'autres termes, Napoléon ne détient son pouvoir que de lui-même. Son mariage est le symbole de la prédominance du destin sur la naissance. Le peuple français est désormais seul souverain en son territoire. Remarquez aussi qu'après la messe, il lira dans la cathédrale le serment constitutionnel, la main droite levée sur l'Évangile. Il confirmait les acquis de la Révolution, tout en faisant accepter son auto-couronnement. C'est peu de le dire, le tableau est un tableau de propagande. Le capitaine de la Méduse était un incompétent. Il ne devait sa place qu'aux relations de sa famille au sein du gouvernement. Le tableau fait scandale lors de sa présentation au salon de 1819. C'est quand même étonnant, hein, c'est le tableau, pas l'événement. Alors c'est l'événement qui est scandaleux, bien sûr. Bon, mais enfin, le tableau fait scandale, car non seulement il décrivait l'histoire bien connue et dérangeante de voyageurs contraints au cannibalisme pour survivre, et la plongée dans la folie à ce propos de plusieurs d'entre eux. Mais de plus, ce tableau constituait une critique directe du gouvernement de l'époque. La silhouette de l'Argus est tout petit, hein. L'Argus est voilà, une toute petite tache là, que l'on voit à peine, hein. Puis j'ai pas une bonne image pour bien apprécier cette silhouette de l'Argus, le navire qui porte secours aux survivants. La silhouette apparaît au loin, et Géricault suggère qu'il pourrait ne pas arriver à temps. Et remarquez effectivement que le premier plan est déjà jonché de cadavres. Comme le cauchemar de Fuseli que nous avions présenté l'an dernier, la toile provoquera chez les spectateurs qui ont vu ce tableau au salon de 1819 une très forte réaction. Une réaction que l'on pourrait qualifier de viscérale et instinctive, hein, ce qui a fortement dérangé. Alors ça, c'est difficile à classer, c'est du romantisme, oui, parce que le naufrage est un thème emblématique des romantiques. Tous les artistes romantiques, hein, quels qu'ils soient, ont peint le naufrage, c'est-à-dire la dérision de l'homme donc dans la nature. Face au pouvoir, à la puissance de la nature. Hein. Donc l'homme est dérisoire. Donc ça, c'est très romantique. Mais c'est aussi très réaliste comme sujet. Donc là, effectivement, ces deux courants, qui pourtant ont peu de choses à voir, hein, là, ces deux courants peuvent effectivement peut-être s'articuler, mais c'est assez rare quand même, et c'est peut-être uniquement particulier à Géricault quand il peint ce type de tableau. Je pense aussi qu'on peut retrouver ça chez un Daumier. Alors quoi qu'il en soit, le réalisme, c'est Courbet, le réalisme, on l'a dit, hein, et le chef-d'œuvre de Courbet, que vous avez ici, un enterrement à Ornans, marque une rupture irrévocable qui entraîne l'écroulement d'un certain nombre de fondements sociaux et religieux et avec tout cela, bien sûr, des fondements artistiques. D'abord, il y a les dimensions exceptionnelles. Imaginez, près de 7 mètres de long, ce tableau. Hein, destiné, ce format, à attirer les regards au salon de 1850-1851. Comme d'ailleurs trois ans plus tôt, il y avait une toile gigantesque qui avait été présentée au salon. C'est Les Romains de la décadence de Thomas Couture. C'est un tableau académique, Les Romains de la décadence. Les Romains de la décadence de Thomas Couture. Bon, gigantesque tableau. Voilà. Et donc là, ce qu'a voulu Courbet, c'est quelque chose qui fasse un effet comparable, en fait, par son format. Bon. Mais les deux tableaux s'opposent totalement. Un enterrement à Ornans et Les Romains de la décadence de Thomas Couture. C'est le format qui les réunit. Car ici, il ne s'agit plus de nobles personnages, ceux du néoclassicisme, ceux qui sont issus de la mythologie classique ou de la Bible, ou de l'histoire, tout bêtement. Mais ce sont des habitants de la ville natale de Courbet, autrement dit Ornans. Ornans est situé dans le paysage de Franche-Comté, un paysage plutôt rude, à quelques 420 km des fastes artistiques du salon. Donc les Parisiens étaient déconcertés quand ils voyaient effectivement ce tableau. En cela, c'est une rupture irrévocable, et une rupture qui entraîne, comme je disais à l'instant, l'écroulement de fondements sociaux et religieux. Et alors, on présentera à l'occasion de ce cours un autre chef-d'œuvre de Courbet. C'est l'atelier du peintre. Allégorie réelle déterminant une phase de 7 années de ma vie artistique, c'est un manifeste politique artistique. Donc vous voyez que les deux tableaux sont très complémentaires, le précédent, Un enterrement à Ornans, donc touche plutôt les fondements de la société, ici c'est plutôt quelque chose qui est un manifeste politique et artistique du même coup. Courbet y associe le style prestigieux et les dimensions de la peinture d'histoire à la description réaliste de son atelier, ridiculisant au passage l'attitude idéaliste de l'art académique. Donc la visée, c'est bien effectivement une visée de critique artistique. Et c'est aussi un manifeste politique, car à gauche, on aperçoit les représentants de toutes les classes sociales, riches et pauvres confondus, parmi lesquels vous trouverez, à gauche donc, un prêtre, un marchand, un chasseur, un mendiant, que sais-je. À droite, Courbet a peint ses amis. Et notamment, on pourra plus précisément, à l'occasion du cours, identifier son mécène. Le mécène de Courbet, c'était Alfred Bruyas, le philosophe anarchiste que j'évoquais tout à l'heure, Pierre-Joseph Proudhon, il en fait le portrait ici, il en fera un autre portrait de son ami Proudhon. Le critique et romancier Jules Champfleury, le poète Charles Baudelaire, vous savez effectivement que complètement à droite, c'est Baudelaire qu'il faut identifier. Donc voilà pour ce réalisme de Courbet. Alors on continue avec Manet, justement, à l'occasion de ce cours, on présentera là aussi deux œuvres du même artiste, Édouard Manet. Malgré, encore une fois, une référence à l'une des plus grandes œuvres de l'histoire de la peinture de tous les temps, c'est la référence à la Vénus d'Urbino de Titien. Manet déstructure le langage pictural, ou technique, avec son Olympia. L'Olympia est peinte en 1863, présentée au salon de 1865. Et là, vous avez, vous le savez, un des scandales les plus retentissants qu'ait connu le milieu artistique du 19e siècle. Référence à un chef-d'œuvre de la peinture, la Vénus d'Urbino de Titien. Et il faut bien comprendre que Manet a un état d'esprit qui est très différent de celui de Courbet. Courbet, lui, il critique. Courbet, il veut faire tomber certaines choses sur le plan artistique, alors que Manet voulait s'élever au rang des plus grands peintres de l'histoire, comme Titien par exemple. C'est ce qu'il espérait, avoir une reconnaissance qui était celle qu'avait Titien en son temps, ou encore au XIXe siècle. Mais comme il déstructurait le langage pictural, et techniquement surtout, donc bien sûr, le public parisien ne comprenait pas. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer ce tableau, l'Olympia, à un bar aux Folies Bergères, qui était le dernier chef-d'œuvre de Manet, réalisé un an et demi avant sa mort. hein, donc il y a 20 ans pour faire simple, qui séparent les deux tableaux, l'Olympia et un bar aux Folies Bergères. Hein. Et quand ce tableau est exposé au salon de 1882, Manet y impose la technique impressionniste élaborée au cours de ces 10 dernières années. Et c'est à ce titre que Manet est père de l'impressionnisme. On parlera du miroir. Le miroir est une curiosité, c'est un prétexte artistique à rendre ses effets impressionnistes, mais c'est aussi un miroir tout à fait incohérent si vous en jugez par les deux horizontales, celle du cadre du miroir et celle du comptoir de la barmède, hein, puisque les deux lignes sont horizontales, le spectateur, c'est-à-dire nous-mêmes, nous ne devrions pas voir le dos de la barmède se refléter dans le miroir. Et ça aussi, c'est un coup de maître d'Edouard Manet à la toute fin de sa vie. Alors ensuite, on parlera des danseuses, hein, les danseuses de Degas. J'ai fait déjà un cours hein, là-dessus, mais enfin bon. Donc il me semble quand même que Degas est... Donc, a laissé comme ça quelques œuvres qui sont très très marquantes hein, au XIXe siècle. Donc, on peut toujours y revenir. Degas s'intéresse moins à la personnalité des danseuses qu'à leurs mouvements et attitudes. Il choisissait les mouvements les plus spontanés, comme volés sur l'instant, aux dépens de la ballerine elle-même. La plupart du temps, leurs visages sont pâles et elles restent anonymes. Et Degas multiplie les effets de cadrage, parfois directement, repris ces effets de cadrage des estampes japonaises. Alors ce faisant, Degas a inventé la vision photographique moderne. Comprenez bien, photographes et cinéastes emprunteront ces cadrages et décadrages, ces plongées et contre-plongées à Degas. Degas, il a eu le génie de renouveler la vision des choses, hein, en multipliant les effets de surprise, en trouvant l'angle qui donne à voir autrement, en mettant une certaine distance vis-à-vis de son sujet. Il réhabilite les premiers plans, il renonce à l'horizontale. Enfin, c'est absolument incroyable ce que Degas apporte à la peinture. Hein. C'est pour ça qu'on peut toujours y revenir. Et remarquez une chose, on parlera moins de Degas pour sa technique impressionniste que pour ses cadrages, ses points de vue, ses effets de surprise, etc. Donc c'est bien, dans ce cas, le peintre qui inspirera photographe et cinéaste, et pas l'inverse. La sculpture française est incontournable. Elle est forte d'une tradition qui remonte au temps des cathédrales avec leurs remarquables portails. La Renaissance française ne manque pas de grands auteurs, souvenez-vous, Goujon. Le XVIIe siècle est fortement marqué par la personnalité exceptionnelle de Puget, nous l'avions vu. Le XVIIIe siècle est le siècle au cours duquel la sculpture française atteint des sommets. La sculpture française devient la référence internationale au XVIIIe siècle avec Pajou, Bouchardon, Pigalle, Houdon, entre autres. On les avait tous illustrés l'an dernier. Carpeaux, Claudel, Rodin en sont les héritiers de cette grande tradition de la sculpture française. Seulement, il faut aussitôt préciser qu'ils porteront à son terme une tradition réaliste et expressionniste de la sculpture qui trouvait ses racines chez Donatello ou encore Michel-Ange à la Renaissance. Nous sommes au terme d'une tradition réaliste, hein, au même titre que l'impressionnisme est au terme d'une tradition picturale. Hein. Et alors par la suite, remarquez que Brancusi, qui a connu Rodin, Brancusi-Maillol, ont connu Rodin, hein, mais qui n'ont pas voulu travailler dans son atelier. Brancusi-Maillol vont rompre avec cette tradition, entraînant la sculpture sur un terrain qui est résolument contemporain. On revient à Seurat. on rappellera l'essentiel, Seurat venait de découvrir la formule optique qu'il recherchait depuis toujours. Seurat lisait des ouvrages spécialisés, par exemple de la loi du contraste simultané des couleurs du chimiste Eugène Chevreul, qui avait été publié en 1839. Il a lu la théorie scientifique des couleurs du physicien new-yorkais Nicolas Roud, paru en France en 1881. Et il a lu dans ses ouvrages que les couleurs atteignent la rétine sous forme de radiations lumineuses de longueurs d'onde différentes et que c'est l'œil qui en fait la synthèse. À partir de quoi il s'efforce de tirer les conséquences de ce phénomène. Sur les bords de Seine, il va s'efforcer d'en tirer les conséquences. Au lieu de mélanger les pigments sur la palette, il applique les couleurs fondamentales sous forme de points juxtaposés sur la toile. Des couleurs fondamentales. Et c'est bien la rétine du spectateur qui doit opérer la fusion, à une certaine distance du tableau, bien sûr, afin de percevoir la nuance recherchée. Seurat généralise l'emploi des couleurs complémentaires. Alors, imaginez le temps qu'il lui a fallu pour peindre ce tableau que vous avez sous les yeux, qui mesure plus de 2 mètres de haut et plus de 3 mètres de long. S'il est fait de petits points, c'est extrêmement laborieux. C'est à l'opposé de l'impressionnisme. L'impressionnisme est fugace et donc spontané. Alors on conclura ce chapitre avec un peintre belge qui est Jaume Ensor, dans la peinture duquel les masques sont un motif récurrent. Et ce faisant, Ensor devient un peintre important parce qu'il va annoncer l'expressionnisme et même le surréalisme, l'expressionnisme du XXe siècle, le surréalisme du XXe siècle. Et cependant, ce tableau est bien inscrit au XIXe siècle. Grand tableau à ce propos, un très grand tableau, qu'il peint en 1888, qui représente le Christ au milieu d'un cortège, dont on ne sait s'il s'agit d'un carnaval ou d'une manifestation politique. En effet, vous lisez donc au-dessus du tableau, c'est-à-dire ici, vive la sociale, mais les gens portent des masques. Alors, est-ce que c'est un carnaval? Est-ce que c'est une manifestation politique? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, le peintre belge Jaume Ensor ne fait pas entrer Jésus à Jérusalem, mais il le fait entrer dans la capitale de son pays, Bruxelles. Et on ne voit rien, cependant, des bâtiments caractéristiques de Bruxelles. Ne cherchez pas, vous ne les trouverez pas dans le tableau. En outre, on ne distingue entre les slogans politiques qu'une seule inscription au contenu chrétien, qui a un contenu chrétien, c'est là, c'est complètement à droite là, du tableau, on peut agrandir, et on lira ceci, « Vive Jésus, roi de Bruxelles ». En haut, je l'ai dit, « Vive la sociale ». Et ce faisant, effectivement, ce tableau va être considérable pour parler par la suite de l'expressionnisme ou encore du surréalisme. Il aura beaucoup compté. Alors, on arrive à la fin de ce programme avec un dernier chapitre, et je vous rappelle que l'enjeu de ce programme, c'est bien articuler le 19e siècle avec le 18e siècle et avec le 20e. Donc on va conclure avec les artistes qui ont révolutionné l'histoire de l'art. Turner et Constable sont aux confins de l'abstraction. Gauguin est révolutionnaire parce qu'il a inventé le synthétisme et le cloisonnisme en peinture. Van Gogh, c'est l'expressionnisme en peinture. Cézanne, c'est la découverte de la peinture. Deux, trois mots là-dessus. Les coups de pinceau, richement expressifs et déliés, de Constable, rendent les nuages, les arbres et le flux des eaux de la rivière d'une façon absolument remarquable, si bien que on est en droit de faire de Constable, d'autant plus qu'il peignait en plein air, un précurseur de l'impressionnisme. Pourtant, les institutions artistiques anglaises ne l'appréciaient pas. donc ces institutions estimaient qu'il aurait dû peindre dans un style plus conventionnel, étudier les maîtres anciens pour apprendre à quoi devait ressembler un paysage peint. Il ne l'a pas fait, il peignait en plein air et il peignait en atelier des tableaux comme la charrette vue des prairies de la Salisbury que vous avez sous les yeux. Et c'est seulement lorsque la charrette de foin qu'il peint en 1821 est exposée en France en 1824 que l'on commence à apprécier son œuvre. Remarque à ce propos que Constable est de son vivant bien plus estimé en France qu'en Angleterre, parce qu'en France, il y a au XIXe siècle une liberté technique qui est celle des romantiques, qui est celle des réalistes, qui est celle des impressionnistes, une liberté technique qui fait qu'on comprenait mieux la peinture de Constable qu'en Angleterre. À droite, Turner, avec son tourbillon spectaculaire, tempête de neige, un bateau à vapeur sortant du port, Turner montre une nature brute et primordiale et trahit une très grande liberté d'exécution. C'est quand même formidable, ce bateau à vapeur qui est pris dans la tempête. Hein. Alors, sur un plan iconographique, ça symbolise le combat de l'homme contre les forces de la nature, des forces plus puissantes que lui. En ce sens, c'est très romantique. Mais enfin, techniquement, on est ici au bord de l'abstraction. C'est très vrai pour Constable, c'est très vrai pour Turner. Hein. Alors, Gauguin, c'est la simplification radicale de la peinture. Qu'est-ce que c'est que le synthétisme? Ce sont des aplats de couleurs, des couleurs plutôt chaudes. Qu'est-ce que c'est que le cloisonnisme? C'est contourner les formes. Justement, ces aplats de couleurs sont contournés, de vastes zones colorées sont entourées de larges traits noirs. C'est ça le synthétisme et le cloisonnisme, qui rend un certain primitivisme. Alors, il faut être très prudent sur cette appellation. Enfin, c'est comme ça qu'on a qualifié la peinture de Gauguin, primitivisme. Quoi qu'il en soit, Picasso, Gauguin, Émile Nolde, Matisse, Constantin Brancusi, Kirchner, Amedeo Modigliani, tous ces artistes-là ont été très perméables à ces inventions techniques, à ces distorsions formelles de l'art dit tribal, ce primitivisme si vous voulez, très perméable à ces motifs audacieux, à ces contrastes de couleurs, enfin, en un mot, à ce que vous avez ici, à travers ce tableau de Paul Gauguin. Et tous ces artistes ont expérimenté ainsi la simplification des contours et des silhouettes, de nouveaux codes symboliques, une déformation des anatomies et des objets. Excluant les détails, le réalisme, la perspective linéaire et les couleurs naturelles. Ils excluaient tout ça. Ces artistes-là ont créé des œuvres abstraites, selon des modalités jusqu'alors impossibles. Et rappelons que, désabusé par la France, incompris, Gauguin s'était établi à Tahiti, que là-bas, il se consacrait à l'élaboration d'un art sans artifice, sans complications techniques, bon, mais ça n'en fait pas moins de lui un vrai technicien de la peinture, inventeur de techniques, synthétisme et cloisonnisme, on l'a dit. Il étudie les méthodes des artisans locaux, donc des artisans tahitiens, et à mesure qu'il rejetait l'art occidental, il s'efforçait de rendre ses propres productions plus primitives, plus exotiques, plus instinctives, plus proches de ce qu'il percevait comme la pureté morale des peuples indigènes qui l'entouraient. Une sorte de retour au paradis, en fait. Hein, bon. Comme quoi, c'est une peinture aussi qui fait sens, une peinture qui signifie quelque chose. Hein. Et lorsque, en 1905 et en 1910, les toiles de Gauguin sont exposées en Allemagne, elles exercent une influence, mais considérable, sur les expressionnistes du groupe dit Bruck, attiré par justement les simplifications et les exagérations de l'art dit ethnographique. Quoi qu'il en soit, vous le comprenez, Gauguin est un peintre incontournable. On ne comprendrait pas le XXe siècle sans l'apport de Gauguin. C'est très vrai aussi pour Van Gogh. Hein. Bon. Après un séjour à la Martinique, Gauguin fait un séjour malheureux à Arles en compagnie de Van Gogh, qui y vivait dans la pauvreté et la dépression. Les deux artistes s'étaient connus à Paris et s'étaient sentis à l'étroit, disons, dans les limites imposées par l'impressionnisme. C'est donc des artistes post-impressionnistes. Et la querelle qui les oppose à Arles provoquera une crise nerveuse chez Van Gogh qui se mutile l'oreille. Cette histoire est très très connue. Alors ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que en dépit de ses troubles psychiques, Van Gogh parvient à conjuguer les formes décoratives simplifiées des estampes japonaises aux puissants effets du symbolisme. C'est la force de la peinture de Van Gogh, et qui tend vers un expressionnisme, mais par ce biais-là, la conjugaison des formes décoratives simplifiées des estampes japonaises et du symbolisme. Alors, l'autoportrait de 1889 que vous avez sur l'écran est peint dans la touche tourbillonnante, riche en empattement, si caractéristique de l'artiste. L'artiste qui met en valeur son regard ferme, donc il nous regarde fermement, tandis que le coloris à base de bleu et de vert forme un contraste plutôt saisissant avec la chevelure et la barbe rousse du modèle. Reste Cézanne, tandis que la plupart des impressionnistes peignaient par petites touches, Cézanne optait par de larges surfaces colorées. Il voulait aller au-delà des détails de surface et creuser plus en profondeur, en analysant l'essence géométrique de la nature. Là aussi, c'est très conceptuel, c'est très abstrait, cette démarche, comme chez Gauguin. Et ce traitement radical de la composition va influencer les cubistes. Si bien que, on peut dire que Cézanne est le premier d'entre les peintres. Cézanne, c'est le premier d'entre les peintres, c'est le découvreur de la peinture. Dans quel sens? Dans le sens que l'artiste ne rend compte que des moyens par lesquels il s'exprime. Touche, patte, couleur, ligne. C'est la seule ambition de Cézanne, rendre compte des moyens par lesquels le peintre s'exprime. En ce sens, il est le premier d'entre les peintres. Et c'est pourquoi Cézanne déconstruit la nature, ou le sujet qu'il observe. Penser à la montagne Sainte-Victoire pour mieux la reconstruire picturalement à la surface de la toile. D'où cet effet d'écrasement de toutes les formes. Ici, par exemple, les baigneuses qui, bien entendu, n'ont jamais existé dans la réalité. L'art de Cézanne n'est que conceptuel, la peinture pour la peinture, l'art pour l'art. C'est-à-dire la leçon artistique la plus importante jusqu'à aujourd'hui, on la doit à Cézanne.